Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous dans ces nouvelles du monde pour le jeudi 5 juin 2025. Des nouvelles du monde, bah, toujours aussi un petit peu clivantes, hein, je m'en rends compte, plus ça va, ça tourne un peu toujours autour des mêmes lignes de fracture qui divisent la société, ça se polarise et bah, du coup ces infos mettent souvent ça en lumière. Et une fois n'est pas coutume. On va commencer avec un communiqué de la part d'organisateurs d'une marche des fiertés, la Pride comme on l'appelle en anglais, qui se tiendra à Alès ce 7 juin. Ce 7 juin aura donc lieu à Alès la première marche des fiertés qui est organisée par un collectif de personnes LGBTQIA+, ainsi que le planning familial du gars. LGBTQIA+, d'ailleurs, tiens, le B a sauté. Visiblement, la bisexualité ne fait plus partie... Ah non, ça va, c'est juste qu'il y a une coquille, pardon. En tout cas, cet événement a pour objectif de rassembler donc toutes les personnes minorités de genre et minorités sexuelles et les personnes alliées, que ça soit des Cévennes ou au-delà, pour un événement festif et revendicatif. Donc la première fois dans cette ville gardoise. C'est donc ouvert à toutes et à tous et c'est l'occasion de rappeler la présence des personnes concernées sur tous les types de territoires, en ville comme à la campagne, de lutter contre leur invisibilisation. De militer aussi pour les droits des personnes minorisées par la société et l'État, ce qui inclut aussi d'ailleurs les travailleurs, travailleuses du sexe, les femmes, les personnes exilées, les handicapés, les séropositifs, etc., puisque souvent les luttes s'interpénètrent avec les dominations, comme on dit, sont intersectionnelles, et les luttes aussi, du coup. Le communiqué continue avec un petit mot pour la période où les conservatismes, les réactionnaires se renforcent sur le territoire en France et à l'international. Et ils font évidemment référence aussi à l'agression de ce week-end à Alès dans le bar du Prolet qui montre les conséquences directes du climat ambiant. Ils veulent donc, en tant qu'organisateurs de cette Pride, cette marche des fiertés, rappeler l'importance des solidarités et de la lutte pour transformer la société afin que personne ne soit mis de côté. Pour ce qui est de la journée, donc ce samedi, deux moments vont la diviser. Tout d'abord, de 12h30 à 15h, un village associatif s'installe Place des Martyrs à Alès. L'occasion de se rencontrer, de faire le tour aussi des différentes associations qui seront présentes. À 15h, départ du cortège, donc dans les rues de la ville, au départ donc de la même Place des Martyrs. Si vous voulez avoir des informations sur les prochains rendez-vous, puisque c'est toute une constellation de personnes qui se réunissent régulièrement, il y a des réunions, des ateliers déco, du besoin de matériel ou des bénévoles pour cette journée, ils ont un compte Insta, qui c'est @PrideAlès, donc PRIDEDALES, Pride d'Alès, pardon, et il y a aussi un mail pridealès@gmail.com. Et on profite, puisque c'est le mois de juin, c'est le mois des visibilités, le mois des fiertés. À la radio, on va diffuser la semaine prochaine toute une série qui a été réalisée par Claire Cascouche-Soucy, qui s'appelle Constellation LGBT, qui s'intéresse justement à la vie, tout simplement, des personnes LGBT dans les campagnes. Donc ça se passe toute la semaine prochaine, du lundi au samedi, il y a 6 épisodes d'une vingtaine de minutes, des portraits, des petits reportages, voilà, c'est à 13h et rediffusé à 23h, donc la semaine prochaine, on fera un petit post aussi sur les réseaux sociaux pour que vous retrouviez toutes ces informations. Du nouveau dans l'affaire de la mort de Naël qui a eu lieu il y a 2 ans, c'était le 27 juin 2023. Le tribunal de Nanterre vient d'annoncer que le policier auteur des coups de feu sera jugé donc pour meurtre. Les juges d'instruction ont ordonné donc un procès devant la cour d'assises pour ce policier, mis en examen pour la mort du jeune Naël. Il est donc poursuivi pour meurtre, c'est-à-dire homicide volontaire, suite à son tir mortel envers l'adolescent de 17 ans, qui était survenu il y a près de 2 ans à Nanterre, suite à un refus d'obtempérer, donc le jeune était au volant d'une voiture. L'adolescent a été tué d'une balle tirée donc à bout portant par un motard de la police qui contrôlait ce véhicule de location qui était conduit par Naël. Une enquête pour meurtre a été ouverte dans la foulée et ce policier, donc, qui s'appelait Florian, a été incarcéré pendant 5 mois puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. C'était en novembre 2023. La première version policière selon laquelle le jeune homme aurait foncé sur le motard avait été donc infirmée par une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux. Des témoins ont filmé la scène. Une reconstitution des faits a ensuite été organisée en mai 2024 en présence des policiers, des 2 passagers du véhicule qui ne sont pas morts et de leurs avocats. Fin juin 2023, une marche blanche avait été organisée aussi pour demander justice pour Naël et avait rassemblé plus de 6000 personnes sur Paris. Les syndicats policiers de leur côté manifestent depuis le début de cette affaire à plusieurs reprises du soutien à leurs collègues. Et par exemple, on peut trouver une pétition là, qui vient d'être mise en ligne qui a déjà recueilli plus de 172 000 signatures pour exiger la fin des poursuites contre le policier mis en cause. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui est diffusée sur le site de la pétition qui a été mise en ligne par l'Institut pour la Justice. Et je vous en mets quelques extraits du son quand même pour voir effectivement les mondes parallèles dans lesquels on évolue.
Je suis venu vous arrêter. Vous avez enfreint la loi. C'est pas moi qui l'ai faite. Je peux même ne pas être d'accord avec, mais je dois la faire appliquer. Peu importe que vous essayiez de m'implorer, de me faire les yeux doux, de me supplier ou d'attirer ma compassion, rien ne m'empêchera de vous coller dans une cage aux barreaux gris. Si vous vous enfuyez, je vous pourchasserai. Si vous voulez vous battre, je me battrai. Si vous me tirez dessus, je riposterai. Au nom de la loi, je n'ai pas le droit de me défiler. Je suis la conséquence. Je suis la note impayée. Je suis le destin avec une plaque et une arme. Derrière ma plaque se cache un cœur comme le vôtre. Nous veillons au grain ensemble. Une fine ligne bleue qui protège les proies des prédateurs, les gentils des méchants. Nous sommes la police.
Voilà un petit peu une vidéo que vous pouvez trouver sur le site où il y a la pétition donc de soutien aux policiers. Hein. C'est un petit peu, on dirait ça, tiré d'un mauvais film avec un peu Dirty Harry mal traduit en français. Ce qui n'a a priori rien à voir avec l'affaire, hein, puisqu'il l'a dit, hein, si vous vous échappez, je vous poursuivrai. Pas je vous tirerai une balle dessus. Bref, petit aparté, pour ce qui est du procès donc, de ce policier Florian, il devrait avoir lieu l'an prochain, et peut-être même à Nanterre, au tribunal de Nanterre, ce qui était le souhait de nombreux habitants du quartier Pablo Picasso, où était originaire ce jeune, qui n'ont eu cesse de demander justice pour Naël, même si certains craignent aussi que le procès ne ravive les tensions d'il y a 2 ans, hein, dans ce qui a été un des épisodes de violence urbaine les plus intenses depuis 2005. La mère du jeune homme, en tout cas, s'est dit très satisfaite de la décision du tribunal. « Je crois que cette décision est courageuse et légitime », estime de sa part l'avocat de la mère de Noël, parce que, dit-il, c'est une application pure et simple de la loi. À noter que dans la même séquence d'actu, là, puisque c'était aussi il y a 2 ans, 15 jours, juste avant le drame de Paris, eh bien c'est à Angoulême qu'une autre personne avait été tuée par la police et que justement l'actualité continue de faire parler d'elle. Il s'appelait Al Hussein Camara, un jeune Guinéen de 19 ans. Lui se rendait à son travail en véhicule. Il était 4h du matin, le 14 juin 2023, donc il allait à quelques kilomètres d'Angoulême pour embaucher. Il a été victime d'un contrôle de police qui a fini par un tir mortel d'un agent sur sa personne. Le policier qui a tiré la balle décrit avoir été mis en danger par une manœuvre de la voiture, ce qui justifie la mort du conducteur par légitime défense. Il aurait foncé dessus. Cette nuit-là, les caméras des policiers ne fonctionnaient pas, mais déjà de nombreux éléments contredisent leur version des faits. Une affaire qui, elle, n'a bénéficié d'aucune couverture médiatique nationale ni d'un soutien effectif des institutions locales. Tout était donc fait pour réduire au maximum la communication sur cette enquête ainsi que le soutien à ses proches et à sa communauté. Quand c'est arrivé, en tout cas il y a 2 ans, les quartiers dits prioritaires d'Angoulême s'étaient aussi embrasés pendant plusieurs nuits. Les médias nationaux avaient commencé à relayer l'affaire et de nouveaux éléments de l'enquête ont été relayés par la cellule d'investigation de Radio France ou de Mediapart. Eh bien justement, remettez en question la version des policiers présents, notamment l'autopsie qui avait été faite quelques jours plus tard, rapportait que le tir de balle était orienté de gauche à droite et d'arrière en avant, donc dans le dos, très légèrement ascendant. Donc le jeune Al Hussein est mort d'une balle dans le dos, ce qui contredit la version du tireur qui disait se situer à l'avant du véhicule. C'est pour ces raisons qu'une marche est organisée là ce samedi 14 juin à Angoulême, une marche pour demander justice et vérité pour Al Hussein Camara. Ça sera à 15h depuis le foyer des jeunes travailleurs d'Angoulême. L'objectif, c'est surtout d'avoir eux aussi une enquête digne de ce nom. C'est aussi de lutter contre l'invisibilisation de l'affaire par la mairie d'Angoulême, qui selon eux n'agit que par son silence, et les préfectures qui, dans la foulée, elles, annulent des événements commémoratifs comme ont été pu faire par exemple des matchs de foot avec l'équipe dont il faisait partie, puisqu'il était un footballeur assidu. Donc voilà, les participants de cette marche marcheront pour demander justice et vérité, et ils veulent rassembler les communautés contre l'engrenage oppressif de plus en plus violent subi par les populations racisées et précarisées au profit des organes du pouvoir. Ça c'est pour le communiqué, et j'en profite du coup pour vous dire que justement l'an dernier, il y a déjà eu une marche anniversaire commémorative donc, de cette mort, et que sur place étaient présents des reporters qui ont donc réalisé un petit documentaire sonore. Ils nous l'ont transmis et donc on vous le diffusera la veille de la marche, donc vendredi 13 prochain. Vous aurez 20 minutes à l'antenne, ça sera le vendredi à 18h sur Radio Escapade, pour entendre justement où en est l'affaire et puis les prises de parole des proches de ce jeune Al Hussein Camara. On part à Nantes, où c'est probablement du jamais vu en termes de dispositifs policiers. Même lors du pic des manifestations les plus énervées contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, aucun préfet n'avait interdit un accès aussi large et aussi grand pour une manifestation. C'est aujourd'hui qu'a lieu le gala du milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin. Et pour cette raison, le préfet de Nantes boucle une énorme zone de la ville qui va de l'hôpital à l'Erdre, du château des Ducs à la Loire. Si vous connaissez la ville, peut-être que ça vous parlera. En gros, c'est la moitié presque du centre-ville qui sera considérée comme une zone rouge. Il ne sera donc pas possible d'avancer sauf montrer patte blanche. Le droit de manifester notamment, il sera suspendu, et ce pour empêcher toute opposition de s'approcher de la Cité des Congrès, où a donc lieu le gala de ce soir à la Cité des Congrès qui s'appelle la Nuit du Bien Commun. C'est un gala qui est organisé donc par ce milliardaire d'extrême droite, Pierre-Édouard Sterrin, à la Cité des Congrès. Ça fait des mois que les syndicats et partis de gauche nantais demandent l'annulation de la soirée, puisqu'elle s'organise dans une salle qui appartient à la mairie de Nantes, ce qui est pour eux une véritable provocation. Eh bien, non seulement le préfet n'a donc pas annulé la soirée, mais il a décidé de la bunkériser, en annonçant que les manifestations et rassemblements non déclarés sont interdits donc à partir d'aujourd'hui 15h jusqu'à demain à 8h du matin, donc toute la nuit. Ce qui est un périmètre gigantesque, défini très largement autour de cette Cité des Congrès. Même le journal Ouest France a qualifié l'interdiction de XXL. Hier, le préfet a pris un autre arrêté qui autorise l'usage d'un drone au-dessus du centre-ville pour surveiller la manifestation. Et face à toutes ces menaces préfectorales, donc l'appel syndical, donc un rassemblement pour s'opposer à cette soirée de galère, a été déplacé de l'autre côté de la Loire, donc sur la rive sud, au niveau du Tripode, donc bien bien loin de la Cité des Congrès. Ce qui est pour les observateurs un précédent inquiétant, puisque maintenant le préfet sait qu'il peut interdire un rassemblement syndical statique contre l'extrême droite sans vraiment beaucoup de contestation de la part des organisateurs. Alors les raisons du préfet pour il explique qu'il craint un risque de trouble à l'ordre public et il invoque une manifestation qui a eu lieu à Tours le 6 mai dernier contre un autre de ces gars-là de Pierre-Édouard Sterrin, puisqu'il fait une tournée avec, je vais vous en parler un petit peu après. Il dit que cette contre-manifestation avait dégénéré. Pourtant, l'événement auquel a assisté le Média Blast, qui s'intéresse là à l'affaire, a été très paisible, visiblement, sans affrontement, dégradation majeure ou blessée. Deux personnes auraient été interpellées puis relâchées au bout de quelques heures. Par contre, Pierre-Édouard Sterrin, donc toujours lui, il revendique avoir été très traumatisé par son étape, donc, je vous le disais, c'était à Tours, puisqu'il est tombé sur un collage dans la rue avec écrit « Sterrin, décapitation ». Voilà, il avait prétexté d'ailleurs de cette menace pour justifier son refus de venir à Paris, vous vous rappelez, à la convocation pour la commission d'enquête parlementaire sur l'organisation des élections en France. Ça fait trois fois qu'on lui demande de venir, il ne vient pas, il dit qu'il a peur pour sa sécurité. Mais à côté de ça, il est allé à Paris faire un gala, une conférence dans une église, je crois, autour de la... C'est quoi être un bon chrétien ? Bref, il se fout un petit peu de la gueule du monde. Et il avait d'ailleurs, dans la suite de ce collage, demandé la dissolution du groupe Action Féministe Tours qui avait assumé ce collage. Collage, vous savez, c'est quand on écrit des lettres sur des feuilles A4 et qu'on les colle au mur. Voilà, et donc lui voulait dissoudre le groupe juste parce qu'il avait écrit Stérin Décapitation. Un collage assumé d'ailleurs par les féministes qui, pour elles, s'inscrivait dans une dénonciation plus large des milliardaires réactionnaires qui sont propriétaires des médias. Pour finir avec ce rassemblement donc, contre le gala de Edouard Stérin, donc la manifestation antifasciste, elle est maintenue à Nantes à 18h, donc c'est à l'entrée, vers l'entrée du CHU, près de l'arrêt Hôtel-Dieu. Et alors, on va parler un petit peu de ce gala et de ce monsieur Stérin. Ça s'appelle donc « La nuit du bien commun ». Déjà, c'est rigolo, le bien commun, quand on sait que le monsieur est un exilé fiscal. Il a une vision donc très personnelle de ce qu'est le bien commun. Un document de 7 pages avait été révélé par le journal L'Humanité, et on pouvait donc apprendre que les organisateurs de cette nuit du bien commun, qui est au centre donc, des mobilisations dont on parle en ce moment, et qui sont liées au projet Périclès. Le projet Périclès, c'est aussi un des projets de ce monsieur Stérin. Eh bien, dans le document, donc pour la nuit du bien commun, on peut trouver des éléments de langage bien calibrés pour les participants qui sont invités. Car en fait, c'est ça le principe. Depuis 2017, sont des rendez-vous. D'ailleurs, il y en a dans plein de villes de France et ailleurs. Des rendez-vous qui sont devenus incontournables pour tout ce que le pays compte d'associations anti-IVG, d'écoles catholiques hors contrat, de conservateurs du patrimoine chrétien ou petits romanciers de l'histoire de France guidés par la Providence. Et donc, en gros, l'idée, c'est de donner de l'argent à toutes ces associations. Bon, depuis les révélations un petit peu récentes sur ce qu'est le plan Périclès, hein, ça coince de plus en plus pour sa branche philanthropique, puisque c'est de ça qu'il est question ici, de philanthropie, avec ses forts relents réactionnaires, les ficelles sont aux grosses. Pour revenir, donc, c'est ce gala, la nuit du bien commun, au fil des éditions qui ont déjà eu lieu à Nantes, c'est environ 1,80 million d'euros de dons qui ont été levés et qui ont permis de financer 38 associations locales. Presque toutes les structures, d'ailleurs, ont des visées caritatives et d'insertion sociale, avec une forte identité, par exemple, catholique. Mais 10 de ces subventions sont aussi déjà subventionnées par la ville et ou la métropole. Le principe, donc, c'est ça. Des associations locales viennent présenter en quelques minutes leurs actions devant un public de donateurs qui s'engagent, si le pitch leur plaît, à financer sur le champ les projets qui le touchent. Ce type d'événement, un peu basé sur le concept de la télé-réalité, a essaimé d'ailleurs depuis dans une quinzaine de villes de France, mais aussi en Belgique et en Suisse. Et ça fait donc depuis 2017 que ça existe, et cette nuit du bien commun a permis de récolter en tout plus de 23 millions d'euros pour 470 associations bénéficiaires. Alors effectivement, aller prendre de l'argent là, ça fait un petit peu mal. D'ailleurs, sur Nantes, 3 des invités, donc des lauréats, ont depuis renoncé à participer au gala caritatif. Hein. Ils n'étaient peut-être pas très à l'aise avec l'argent, cet argent, on peut dire sale, j'imagine, de leur point de vue. D'autres associations, elles sont bousculées en interne, justement, par cette polémique et le climat de pétaudière politique qui entoure cet événement programmé aujourd'hui. Et on termine ce dossier toucher un petit mot sur le plan Périclès, parce qu'en fait, ils nous touchent tous plus ou moins directement. Je vous avais entendu que monsieur Stérin était invité à une commission d'enquête parlementaire sur l'organisation des élections en France. Et oui, c'est parce que c'est là-dedans, notamment, que lui, il met beaucoup d'argent. Alors, ce qu'on sait donc de ce projet Périclès, je rappelle, du milliardaire catholique Pierre-Édouard Stérin et aussi exilé fiscal, qu'on peut qualifier aussi de libertarien. Le but, c'est de promouvoir des valeurs conservatrices et de faire gagner la droite aux élections, la droite plutôt dure. Ce, à travers les médias, principalement, ou en soutenant des personnalités politiques de droite et d'extrême droite. Voici donc un peu les grandes ficelles de cette bataille culturelle qui est menée, je rappelle, par une des plus grandes fortunes de France. Et peut-être vous ne le saviez pas, bah, si vous avez acheté des Smartbox, c'est comme ça qu'il a fait fortune, le monsieur. Alors, Périclès, ça veut dire patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverainiste. Tout ça, ensemble, ça veut dire Périclès. Je ne sais pas si tous les mots sont d'ailleurs compatibles les uns avec les autres, mais bon, comme ça, ils ratissent large. Ça défend donc les valeurs que vous pouvez mettre derrière tous ces mots-là. Parmi elles, beaucoup de valeurs libérales, hein, comme la liberté individuelle et la liberté d'entreprendre. Donc l'état social et le droit des travailleurs, bof. D'autres sont carrément plus conservatrices ou traditionnalistes, comme la présentation de la famille comme base de la société. Donc aussi avec un papa et une maman. La revendication d'une place particulière du christianisme, dit-il, ou d'une fierté de notre histoire, notre identité, notre culture. Qui est nous, on ne sait pas. Ces idées donc sont placées, vous l'aurez compris, en opposition des tendances qui sont présentées par les auteurs du document comme les mots principaux du pays, dans lesquels ils mélangent socialisme, wokisme, islamisme, immigration ou laïcité agressive. Dans un premier temps, donc, ce plan Périclès prévoit une guérilla juridique, ça c'est le mot utilisé, contre l'islamisme, l'immigration, l'attaque à la liberté d'expression, la théorie du genre, afin, disent-ils, de faire changer la peur de camp. Peu cher, ils ont peur. Faire appliquer la loi et se défendre des attaques adverses et faire évoluer la loi. Et effectivement, on voit que ça marche bien leur histoire. L'équipe donc, de Pierre-Édouard Sterrin compte imposer ces thèmes et leur traitement privilégié à travers les médias, les réseaux sociaux et la production intellectuelle. Pour les diffuser, les auteurs donc, du plan Périclès misaient l'année dernière sur la production de baromètres, notamment sur l'islam et l'insécurité, l'immigration ou l'extrême-gauche, le tout en partenariat avec des médias chargés de relayer massivement ces résultats pour toucher toute la population française. CNews, vous l'aurez compris, a une place de choix dans cette constellation médiatique. Au niveau politique, enfin, au niveau des institutions et donc les élections, le document explique justement vouloir identifier les élections prioritaires et former au combat électoral les candidats qui sont alignés sur leur projet idéologique et aussi les candidats qui ont le plus de chances de victoire, donc vraiment une stratégie. Par exemple, ils ont mis en place, il existe déjà, une école des futurs maires, donc là c'est évidemment pour les municipales, qui distribuait à partir de septembre dernier une formation théorique et pratique à des candidats qui partagent leurs valeurs pour les aider à conquérir justement les communes. Et tout ce qu'ils veulent, c'est notamment viser une victoire du RN municipal de 2026, avec, ils fixent un objectif d'au moins 300 communes qu'il faut à tout prix gagner. Il recommande aussi de faire des liens et de construire une présence proche des dirigeants de demain, pour ce qui est de la droite, notamment chez les Républicains, Reconquête et le Rassemblement National. Et enfin, à plus long terme, donc si on regarde la présidentielle, les concepteurs donc, de ce plan Périclès, financé par, je le rappelle, Pierre-Édouard Sterrin, préparent donc en amont de la présidentielle de 2027 une réserve de 1000 personnes acquises à leurs idées. Et là, ils comptent justement préparer des technocrates, des professionnels de la politique, des experts thématiques qui pourront être mis au poste clé, donc dans les cabinets, les structures parapubliques, la haute administration, pour atteindre tous ces objectifs. Les administrateurs du projet Périclès prévoient de dépenser environ 150 millions d'euros en 10 ans. C'est pas beaucoup, à mon avis, il y a pas mal d'argent qui va transiter en plus. Voilà un petit peu de quoi se réjouir de l'organisation des prochaines élections. Ça rappelle gentiment ce qui se passe notamment aux États-Unis, où ça s'organise. Bon, ben voilà, j'imagine que si on coupe les vivres aux radios associatives l'année prochaine, on pourra peut-être pas trop demander d'argent à Monsieur Sterrin et sa nuit du bien commun. Allez, on passe à autre chose. Qu'est-ce que j'avais préparé comme... Qu'est-ce que je vous ai mis? Ah oui, ça.
Regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Allez, on va quand même montrer que des fois, les médias, justement, ils font leur boulot et que des petites infos peuvent changer le cours des choses. C'était hier que ça s'est passé, entre la matinée et le début d'après-midi. On lisait qu'aujourd'hui, ce jeudi 5 juin, un cargo israélien faisait escale à côté de Marseille, à Fos-sur-Mer, pour embarquer en secret 14 tonnes de pièces détachées pour mitrailleuses, destinées donc à l'armée israélienne. Ces pièces sont fabriquées par une société française qui s'appelle Eurolinks, et ce matériel militaire était donc destiné, lui, à l'entreprise d'armement qui s'appelle Israel Military Industries. Ce sont les médias Disclose et le média irlandais The Ditch qui ont révélé, qui ont levé le lièvre. Cela, on rappelle que pendant qu'Emmanuel Macron promet des sanctions contre Israël, le pays, dans le même temps, continue de vendre des armes au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et ce, d'ailleurs, malgré des mensonges à la télévision du même président qui affirmait que la France ne vendait plus d'armes à Israël. Effectivement, elle vend que des pièces détachées. Alors, en tout cas, d'après les informations donc, de ces médias d'investigation, le navire de commerce devait embarquer 19 palettes contenant des maillons. Donc, ce sont des pièces détachées utilisées pour relier entre elles des cartouches d'armes automatiques. C'est ce qui rentre dans les mitraillettes, je crois, l'espèce de longue chaîne là, qui rentre dedans. L'arrivée du cargo prévue aujourd'hui à 6h du matin. Son départ destination le port d'Haïfa au nord d'Israël était prévu le même jour, donc à 23h ce soir. Ce sont les journalistes donc, qui ont trouvé ces infos. D'ailleurs, on peut citer Ariane Lavrieux, qui fait partie de de cette équipe d'enquêteurs et qui est souvent bien embêtée par la police notamment. Donc ils ont fait ces révélations, des révélations qui ont fait le tour des réseaux sociaux très vite hier, suite à quoi le syndicat CGT des dockers du port de Fos annonçait dans l'après-midi, après vérification, que le conteneur rempli de maillons d'Eurolinks avait été mis de côté et qu'il ne le chargerait pas sur le bateau à destination d'Haïfa. Ils ont donc refusé de charger ce matériel. Et le texte ajoute que les dockers ne participeront pas au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien et que le port de Marseille ne doit pas alimenter l'armée israélienne. Voilà, donc depuis, l'action des dockers a notamment été saluée par de nombreux soutiens à la cause palestinienne. Du côté du gouvernement, en revanche, on n'a toujours pas pris la parole pour clarifier la situation sur cette expédition qui était censée rester secrète, on l'imagine bien. Emmanuel Macron, le 1er octobre 2024, avait sur France Inter affirmé que la France ne livrait pas d'armes vers Israël.
La boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Ah oui, j'ai fait la boulette.
On a repoussé les limites, là.
Et pendant ce temps, toujours en mer, la douzaine de militants internationaux qui cherchent à envoyer un bateau d'aide à Gaza dénonçaient hier la menace d'Israël et son intention déclarée d'attaquer leur navire alors que celui-ci commençait sa traversée de la Méditerranée depuis la Sicile. L'armée israélienne, en effet, par la voix de son... je ne sais plus qui c'était, le porte-parole ou le chef de l'armée, a déclaré qu'elle était prête à protéger l'espace maritime du pays après le départ donc du Madeleine, c'est le nom de ce bateau, un petit voilier, qui fait partie de la coalition de la flottille pour la liberté. Il décollait de Sicile dimanche, avec à son bord donc une douzaine de personnes, dont Greta Thunberg, la militante écologiste mais pas que, et la députée française insoumise Rima Hassan. L'action est notamment soulignée par le groupe américain Jewish Voice for Peace, donc des voix juives pour la paix, qui faisait l'éloge de Greta Thunberg et de ses compagnons d'action en déclarant qu'ils se mettaient en danger pour attirer l'attention sur le génocide en cours du gouvernement israélien et de l'armée soutenue par les États-Unis. Le Madeleine est un petit voilier, un petit deux-mâts qui transporterait des jus de fruits, du lait, du riz, des conserves et des barres protéinées, même si cette action est évidemment bien plus symbolique qu'autre chose parce que les besoins sont colossaux sur place. Le Madeleine transporte de l'aide humanitaire et des défenseurs internationaux des droits humains, ce qui constitue un défi direct au blocus illégal d'Israël qui dure depuis des décennies et au génocide en cours, signé la coalition donc pour lancer cette action. Cette coalition de la flottille pour la liberté, elle date de 2010. C'est donc un mouvement international non violent de soutien aux Palestiniens qui combine de l'aide humanitaire et de la protestation politique contre le blocus de Gaza. Leur but, c'est tout simplement d'atteindre les côtes gazaouies, en tout cas d'essayer de les atteindre, et d'ainsi rompre le blocus israélien, ce qui ne plaît pas du tout aux autorités. Et d'ailleurs, ils craignent pour leur menace, pour leur sécurité, hein, puisqu'ils sont très directement menacés par des gens aussi importants. D'ailleurs, dans des courtes vidéos qui ont été relayées ce mardi soir, Rima Hassan et ses camarades signalaient la présence d'un drone au-dessus de leur embarcation pendant quelques heures de la nuit, ce qui les a fortement inquiétés. Aucune conséquence là, puisque visiblement ces drones, c'était des drones grecs de surveillance. Mais quand même, début mai, un autre bateau, le navire Conscience de cette même coalition, avait lui été bombardé dans les eaux internationales au large de Malte. En allant vers Gaza, bon, il n'avait fait aucune victime, mais il avait coulé. Les militants ont déclaré qu'ils soupçonnaient à l'époque une attaque de drones israéliens. L'ambiance à bord est donc un petit peu sur une alerte constante.
Aujourd'hui, on a suivi à peu près 5 heures de formation pour nous préparer aux différents scénarios. Donc, pour la faire courte, le premier, c'est d'arriver à Gaza. Le deuxième, étant d'être intercepté par les autorités et donc d'être arrêté. Le troisième, étant d'être attaqué. Donc, à noter que si on est attaqué avec ce bateau, on coule. Donc, ce bateau est beaucoup plus petit que celui qui a été attaqué le 2 mai dernier.
Voilà, vous entendiez donc une petite vidéo mise en ligne par justement Rima Hassan, c'était mardi soir. À noter que suite à leur, ils ont un petit peu alerté sur les réseaux sociaux, on a pu noter des tweets assez classes, notamment de la part d'une socialiste qui a dit « plonge ». Enfin voilà, au niveau des soutiens, c'est assez effarant de voir ce que les gens écrivent là-dessus. Bref, de nombreuses personnes en tout cas surveillent à distance ce trajet du petit bateau. C'est un peu l'idée aussi, c'est d'attirer une attention médiatique et aussi de leur assurer une sécurité pour pas qu'il leur arrive quelque chose dans la mer. Elle est notamment visible sur les applis de navigation. À 6h ce matin, ils étaient au niveau de la crête. En tout cas, pour ce qui est des demandes, les soutiens et Cette coalition demande à la France d'agir pour garantir un suivi diplomatique constant et transparent sur la situation de la flottille et d'exiger des autorités concernées, donc selon les différents pays qui sont les eaux territoriales qui sont traversées, qu'aucune atteinte ne soit portée à l'intégrité physique des membres de l'équipage. Ils veulent tout simplement faire valoir les principes du droit maritime et des conventions internationales en matière de navigation civile et humanitaire. À savoir que le bateau qui s'était fait couler il y a peu, c'était dans les eaux internationales. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez écrire au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Des courriers types ont déjà été rédigés. C'est sur le blog Yahani que sont relayés notamment ces documents. Et pour par rapport à ce bateau qui est en route donc vers Gaza, Israël a annulé la permission au bateau de s'approcher des eaux de Gaza, ils sont au courant de la situation, et le ministre de la Défense israélien organise une réunion d'urgence là aujourd'hui avec les hauts responsables de Tsahal pour déterminer s'il est préférable de laisser le navire faire demi-tour en mer ou de l'escorter jusqu'au port d'Ashdod en Israël où tous les occupants seront arrêtés. Israël est toujours et de plus en plus critiqué par la communauté internationale en raison de la situation humanitaire désastreuse dans ce territoire palestinien où les Nations Unies ont averti au mois de mai que l'ensemble de la population était en état de famine proche.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Allez, on termine en mer toujours, puisque le sommet des océans va commencer ce 9 juin à Nice. L'UNOC, hein, donc le sommet des océans organisé par les Nations Unies. Un petit détail aurait pu passer inaperçu. C'était le mercredi 21 mai, donc en amont de ce sommet mondial pour les océans, que le ministère de la Transition écologique adressait à tous les médias une liste de recommandations de sujets sur la préservation des mers. Voilà, donc ça se fait normalement. Hein, les ministères... communique pour donner des listes de sujets et d'invités donc à éventuellement à faire venir sur les médias, normal. Mais parmi les interlocuteurs qui ont été mis en avant par le gouvernement, au milieu de plein d'ONG comme Surfrider ou des organismes de recherche comme l'IFREMER, eh bien, on trouvait le nom d'une giga-entreprise, CMA-CGM. Si vous êtes marseillais ou que vous y passez, vous reconnaissez l'énorme tour qu'a poussé du côté de la Joliette. Ce groupe, c'est un groupe donc, de transport maritime, la troisième au monde hein, quand même. Il est aussi le principal sponsor de cet événement sur les océans. En effet, des chiffres ont été trouvés par reporter, par le service communication donc du sommet. Et donc la CMA-CGM a signé un chèque de 2 millions d'euros pour soutenir ce sommet. Bon, 2 millions, vous me direz que c'est pas énorme pour eux. Est-ce que cet argent a été utilisé pour obtenir de la communication en plus ? On peut un petit peu se poser la question, puisque l'entreprise est quand même citée 3 fois dans le document du ministère de la Transition écologique. C'est un traitement de faveur unique si on regarde toutes les autres mentions des associations. Il est cité d'abord pour son projet pour piloter l'impact carbone en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est génial, j'adore. L'intelligence artificielle qui est une nouvelle source de carbone vraiment explosive, mais du coup, on va piloter l'impact carbone avec de l'intelligence artificielle. Il est aussi cité pour son investissement dans les carburants bas carbone, hein, notamment des biocarburants qui mettraient dans ces méga-tankers, des biocarburants qui sont controversés sur le plan environnemental, hein, notamment responsables pas mal de déforestation. Et enfin, troisième action, visiblement, pour laquelle il faut le nommer, son engagement pour la préservation de la biodiversité marine. Ouais, rien que ça. Alors, on rappelle que le transport maritime, c'est à l'origine des pollutions marines, atmosphériques et des émissions de gaz à effet de serre, sans compter toutes les pollutions en ville pour les gens qui se prennent ça dans... qu'on le nez dans les cheminées. Le secteur à lui seul est responsable de près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça fait autant que l'aviation. Et pour réduire donc l'empreinte carbone du groupe CMA-CGM, effectivement, il y a des pistes. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est légitimement participe à ce sommet. Et ben, il mise tout sur le gaz naturel liquéfié, le gaz comme carburant, qui est lui aussi pourtant très néfaste pour le climat. Mais évidemment, ben, ça décarbone en partie. Sans oublier la faible participation d'ailleurs de ce géant maritime au budget national. En effet, ils rentrent pas mal d'argent et ils payent pas trop d'impôts eux non plus. Une mission de l'Assemblée nationale avait été faite sur les profits exceptionnels liés à la période du Covid-19. Le taux effectif d'imposition de l'entreprise CMA-CGM, c'était 2% en 2021, 2% d'impôts. Et en 2024, l'entreprise a réalisé 5,70 milliards de bénéfices. Ça fait 5 milliards d'euros, ce qui fait quand même presque 57% de plus par rapport à l'année précédente. Donc ils ont vraiment éclaté tous les bénéfices. La fortune du patron de cette entreprise, qui s'appelle Rodolphe Saadé, qui achète aussi des médias, eh bien cette fortune, elle a septuplé, elle a été multipliée par 7 pendant la crise du Covid. Et oui, les livraisons, tout ça, les bateaux, selon une enquête de Mediapart, tout ça. Donc voilà, un petit peu un financeur du sommet des océans qui laisse un os dans la gorge de pas mal d'observateurs, notamment par exemple du côté de Greenpeace avec François Chartier qui suit l'organisation du sommet à Nice cette année. Il dit « Voir des entreprises qui contribuent au changement climatique et à l'hypercirculation des marchandises sur l'eau être mises en avant, c'est étonnant. Pour cet écologiste, il est essentiel que ce soit les États qui prennent des engagements clairs et des mesures strictes pour protéger les océans. » On ne peut pas juste s'en remettre à la bonne volonté des entreprises, rappelle-t-il. Et en effet, le 26 mai dernier, CMA-CGM, eux, étaient contents, en plus de ce blue washing, on pourrait dire, hein, comme le greenwashing, mais avec du blue pour les océans, puisqu'ils annonçaient être partenaire mondial de la conférence des Nations Unies sur l'océan. C'est-à-dire qu'ils font partie des sponsors officiels du sommet mondial. Hein, ils auront droit à leur petit logo sur l'affiche, comme Coca-Cola qui finançait la COP27. Bon, alors évidemment, ils ont amené de l'argent et on sait que ce sommet mondial peinait à boucler son budget, puisque visiblement, pas grand monde qui a envie de le financer. Il y avait déjà 52 millions d'euros d'argent public qui étaient actés pour l'organisation du sommet sur les océans. Il manquait encore de l'argent entre 10 et 15 millions d'euros que les organisateurs comptaient justement combler grâce à du mécénat d'entreprise. Et donc, bah voilà, une partie déjà de cette enveloppe est comblée grâce à la CMA-CGM. Seulement 2 millions d'euros quand même, ils n'ont pas été très généreux. Et pendant ce temps, d'ailleurs, on finit avec l'UNOC, on apprenait aussi dans le même temps que le bateau de Greenpeace, qui s'appelle l'Arctic Sunrise, n'était pas autorisé à participer à la grande parade pour l'océan, qui est prévue le 8 juin, la veille de l'ouverture du sommet. C'est la préfecture maritime de la Méditerranée qui estime que ce navire, donc appartenant à Greenpeace, ne remplit pas les conditions de sécurité pour participer à la parade. C'est selon le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, hein, qui n'en rate pas une, la ministre de la Transition écologique, qu'on a expliqué, que l'organisateur donc expliquait « Je ne peux pas me permettre de prendre le risque d'accueillir un équipage dont j'ignore les intentions, qu'elles soient pacifistes ou vindicatives. » Alors le côté vindicatif de Greenpeace, visiblement, là ils font référence à la dernière action en date d'envergure qui a été menée par ce bateau. C'était le 21 mai dernier, dans le parc marin du Golfe du Lion. Le bateau, l'organisation, a mis en mer des gros blocs de cailloux en déposant 15 rochers de calcaire de 1 à 2 tonnes dans la mer. Et de manière régulière, ils ont quadrillé tout un périmètre et ces rochers avaient pour but d'empêcher le chalutage de fond. Et le tout donc pour appeler à sauvegarder les aires marines protégées des chalutages de fond qui raclent pour ramasser tous les poissons qu'ils peuvent. C'est Philippe Spadotto, le référent océan de Nice pour Greenpeace, qui explique que selon lui, cette décision donc, de ne pas les inviter à la flottille est disproportionnée, alors que justement l'organisation cherche à dénoncer l'hypocrisie française qui annonce 33% d'air marine protégée, alors que seulement 4% suivent les critères de protection intégrale qui sont définis par l'Union internationale de la conservation de la nature. Bon, ils n'auront pas le droit de participer à cette parade, mais ils ont une escale au port de Nice les 4 et 5 juin qui elle est maintenue avec des visites du bateau prévues, donc l'Arctic Sunrise, pour sensibiliser le public à la protection des aires maritimes protégées. Et c'est Jean-François Julliard qui aura le mot de la fin, le directeur général de Greenpeace France. C'est tout simplement une aberration, dit-il. Depuis plus de 50 ans, nous défendons les océans, en particulier à bord de nos navires, et nous ne pourrions pas participer à une manifestation en faveur des océans. Allez, c'est sur ces petits bruits de vagues qu'on se quitte. Les nouvelles du monde, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et puis à toutes pour... je vous annoncerai un petit peu le programme de l'après-midi, après le générique.
Monsieur, des informations, il y en a plein. Hein. Par exemple, bon, il y en a plein. Hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué... Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.